Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, situation en Biélorussie et droits humains, mais aussi nationalistes québécois avec le 14e congrès de l'IRQ. Nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, deux invités, France-Isabelle Langlois, la directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, et Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Madame Langlois.
Bonjour.
Donc tout d'abord, avec vous, j'aurais voulu revenir sur plusieurs sujets. Le premier sujet du moment est un sujet assez important. On a quand même assez parlé dans le média, mais c'est bien d'avoir un point de vue de spécialiste en matière de droits humains sur la question. C'est le sujet de la frontière biélorusse et polonaise où des migrants sont campés. À ce qui paraît, la situation a changé dans la dernière nuit à la frontière en attente de passage. Mais il y a beaucoup d'éléments politiques et un peu l'utilisation des migrants comme monnaie d'échange, ce qui est désolant. En question. Donc, tout d'abord, que se passe-t-il à la frontière biélorusse et polonaise?
Ah mon Dieu, écoutez, c'est un drame humain qui se déroule. Des migrants, en fait, on parle de plusieurs milliers de personnes migrantes sont coincées dans un no man's land entre la frontière de la Biélorussie, du Bélarus et de la Pologne, qui est en fait l'entrée vers l'Union européenne.
Donc, la frontière polonaise,
voilà. Donc l'entrée polonaise, c'est à la fois une entrée vers la Pologne, mais vers surtout l'Union européenne. Et donc on a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont coincées là, qui apparemment ont été téléguidées par le régime de Minsk. Et peut-être même avec l'appui de la Russie, en représailles, aux représailles que l'Union, aux sanctions que l'Union européenne a émises à l'encontre du Bélarus. Et de toute évidence, depuis plusieurs semaines, il y a des avions remplis de personnes migrantes qui arrivent du Moyen-Orient. Et ensuite, ces personnes sont dirigées donc dans cet espace, en pleine forêt, alors que les températures avoisinent
Donc, pour remettre en contexte pour nos auditeurs, nous avons des migrants et des personnes en extrême détresse qui souhaitent quitter une situation assez sombre. On va parler de régions en guerre où l'économie peut-être est en état délabré, comme l'Irak et certaines de ces régions. La Syrie, ils fuient des conflits, ils fuient la misère. La Russie et la Biélorussie les utilisent en affrétant des vols charter pour les placer à la frontière, créer une tension afin de se venger ou d'émettre des représailles d'un nouveau type envers les sanctions qui ont été émises contre le gouvernement biélorusse. Des sanctions qui ont été émises, si pour le rappel, pour nos auditeurs, face à la répression du gouvernement biélorusse envers son opposition politique, Madame Langlois.
Oui, tout à fait. Et à la suite des élections d'août 2020 qui ont étaient plus ou moins légitimes par ailleurs. Donc, exactement. Alors, et ça crée une situation où des personnes, des êtres humains, sont laissés à elles-mêmes, sans ravitaillement, au froid, etc. Donc, elles sont un peu utilisées comme une arme de guerre, si vous voulez, par le régime de Minsk. Mais, à contrario, le fait que la Pologne ferme sa frontière et refoule ces personnes vers la Biélorussie, c'est pas plus honorable.
C'est ça.
Selon les conventions internationales, tous les États ont l'obligation de prendre soin de toute personne, peu importe d'ailleurs la façon dont elle entre sur le territoire, de les entendre et de traiter leurs demandes d'asile.
Donc on est en fait, certes, on a une crise fabriquée par Minsk, un Bélarus qui a une sorte de casus belli pour faire cela, une sorte de crise d'un type nouveau, mais de l'autre côté, on a une Pologne aussi qui a une part de responsabilité dans la crise en cours.
Pologne avec vraisemblablement l'appui quand même de l'Union européenne qui ne blâme pas en tout cas très fortement la façon dont la Pologne agit envers ces personnes qui demeurent des êtres humains, rappelons-le, et comme vous l'avez dit, qui fuient des régimes et des situations parmi les plus les plus misérables, les plus pénibles qu'on puisse vivre sur cette planète. Et on entendait dans les nouvelles hier que la Pologne a même l'intention de construire un mur à sa frontière.
Un mur à la frontière de l'Europe.
On est encore dans cette logique de construction de murs entre les États-Unis et le Mexique, entre Israël et la Palestine, etc. Et ça ajoute à cette dite crise des migrants qui n'est pas une crise à ce point. En fait, la situation, elle se vit comme une situation de crise par les personnes migrantes. Mais il faut toujours se rappeler que malgré les chiffres qui nous apparaissent importants, on parle de 10 000, de 20 000, de 30 000, même d'un million de personnes, par exemple, qui veulent entrer en Europe, ça reste un très petit nombre de personnes.
Par rapport aux populations déplacées sur la planète.
Exact. Et par rapport aux capacités que des pays comme l'Europe, les pays européens d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord ou l'Australie, les capacités que nous avons pour accueillir ces personnes-là, alors que la très, très grande majorité, autour de 90% sinon plus des personnes migrantes, se retrouvent dans des pays frontaliers, des pays que ces personnes quittent. Et notamment, par exemple, au Liban, la majorité des Syriens se sont ramassés là. Ça a doublé, qui est un tout petit pays.
La population réfugiée sur place.
Et la population a doublé en raison de... Et c'est un pays qui n'a pas la capacité, bien entendu, d'accueillir... des personnes migrantes en si grand nombre comme nous l'aurions. Et donc, on est un peu dans une fabulation de ces migrants, un peu comme au Moyen-Âge, les Huns descendaient sur l'Europe. Et c'est ce discours que des dirigeants politiques, des leaders un peu partout en Europe et dans les Amériques ont, qui attise les craintes des populations et bien sûr la haine et la violence envers les personnes migrantes.
Surtout, c'est quand même quelque chose d'atypique. On a aussi l'Union européenne, il y a quelques semaines encore, qui était posait le blâme contre les politiques de la Pologne qui attendaient à la liberté d'expression, qui attendaient à la liberté des femmes de pouvoir posséder, de pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur corps. On parle de l'avortement. Et là, cette fois-ci, l'Union européenne qui se met vent debout derrière la Pologne pour la soutenir sur cette question de migrants, en soutenant aussi une réponse à la crise créée par Minsk, mais une réponse qui elle-même aussi peut être critiquable. Donc on a quand même quelque chose, une sorte de double discours, de double jeu de la part de l'Union européenne au sens large du terme, qui est vraiment bizarre et qui est peu appréciable.
Tout à fait.
Au niveau aussi de la situation sur place, Amnesty International est beaucoup axé aussi sur la liberté d'expression. On a pu voir l'interdiction d'accès à tous les journalistes et ONG sur le terrain. Est-ce que vous avez des nouvelles de la part de vos partenaires sur le terrain et aussi comment réagissez-vous à cette interdiction qui est quand même pour un pays censé être démocratique comme la Pologne, va contraire aux droits qu'il garantit?
Bah, tout à fait. En fait, ça c'est une autre abomination. Donc, on est censé permettre l'accès aux ONG, bien sûr, notamment d'aide humanitaire et aux médias. C'est la base de nos démocraties et de nos états de droit. Donc, le fait de refuser ça vient ajouter l'insulte à l'injure ou l'injure à l'insulte, selon. Et bon, alors, ce qui arrive, c'est que les observateurs, notamment les médias, vont se masser dans les zones près des frontières, n'ont pas accès à la zone en tant que telle où se trouvent les personnes migrantes. Ils vont se masser, ils vont aller voir quand même. Il y a un minimum de communication. Il y a toujours des personnes qui vont réussir à rentrer par d'autres moyens. On va avoir quelques informations. Les informations sont difficiles, mais on est en mesure de voir que la situation que ces personnes vivent, elle est extrêmement préoccupante.
Et surtout aussi pour nos auditeurs, La Pologne est un pays démocratique, l'un des seuls pays qui empêche les ONG et les médias d'aller dans des situations, on va dire, de conflit de la sorte, ou des situations où des personnes en détresse ou en état de migration sont dans des situations difficiles. Comme ça, c'était en Éthiopie et au Tigré. Donc ça vous met un peu en rapport, cher auditeur, par rapport à la difficulté et aussi, on va dire, le problème qu'il y a en matière de respect de droits démocratiques et respect de la liberté d'expression. Vous avez, vous avez pu aussi ce matin diffuser le rapport de l'Agenda des droits humains 2021 pour le Canada. Donc on a beaucoup de problèmes aussi ici sur place. Revenez-nous pour nos auditeurs sur ce rapport.
Oui, c'est un rapport qu'on fait annuellement. En fait, on l'a pas fait en 2020 pour des raisons de pandémie, là, l'impact que cela a eu sur l'organisation de notre travail. C'est un rapport qu'on fait conjointement donc avec l'autre section d'Amnesty International au Canada, la section anglophone. Et on fait un état des lieux des enjeux de droits humains donc qui ont cours malheureusement au Canada. Et ça s'adresse à l'ensemble des gouvernements canadiens, donc des provinces, des territoires et bien sûr du gouvernement fédéral. Dans ce cas-ci, pour l'édition 2021, on l'a axé sur justement l'impact qu'a eu la COVID sur la pandémie, sur plusieurs des enjeux, comme par exemple les questions de racisme, de discrimination, les droits des peuples autochtones, la crise climatique, etc. Donc, on avait déjà des enjeux de droits humains à divers niveaux qui se sont vus exacerbés par le contexte pandémique. Mmh. Et on est préoccupé aussi par la reprise post-pandémie. Donc, s'assurer que la reprise se fasse de manière à prendre en compte les enjeux de droits humains et à respecter les droits humains et de mettre en place les mesures pour respecter, mais surtout réparer dans certains cas et changer la donne. Et donc, on fait un état des lieux et il y a une série de recommandations qui s'adressent au gouvernement canadien, toujours dans une perspective de droits humains.
Parmi les recommandations, je peux en citer quelques-unes. Vous avez réalisé l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un peu mal barré avec l'objectif de maintenant qui est 2050. On a aussi reconnaître le caractère essentiel du travail réalisé par les personnes migrantes. Je sais que vous avez été très présente pour permettre et inciter à la régularisation des anges gardiens, ces personnes qui ont été présentes dans les premières vagues dans les CHSLD et autres résidences de personnes en besoin de soins. Et vous parlez aussi de la reconnaissance du racisme systémique ou de mettre en œuvre les centaines d'appels d'actions et recommandations pour le droit des peuples autochtones. Et ça, on rentre aussi dans les affaires qui sont sorties pendant la pandémie avec Joyce Echakane, par exemple. Mmh. Donc on a un peu, c'est une sorte de confirmation de tout ce qu'on a pu voir dans les derniers mois et donc vraiment continuer un appel pour que le gouvernement mette en place des mesures afin de réduire, diminuer, voire faire disparaître les disparités qui sont encore présentes.
Tout à fait. Et prendre des mesures concrètes vis-à-vis de ces questions qui sont souvent préoccupantes. Et on ne fait pas de comparaison par rapport à des enjeux de droits humains ailleurs dans le monde. Il ne s'agit pas de savoir si c'est pire ou si c'est mieux. Il y a des enjeux de droits humains aussi au Canada, même si de façon générale, on vit mieux qu'ailleurs. Il y a quand même des enjeux de droits humains. Il faut quand même s'en préoccuper. Il faut quand même s'y attaquer.
Merci beaucoup, Mme Langlois, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Cette semaine, on fête les 20 ans de la CAQ, les 10 ans de la CAQ, excusez-moi, mais aussi on fête le 14e colloque de l'IRQ en mode hybride, quelque chose comme un grand peuple, nationaliste, bilan et programme en vue des élections 2022. Pour discuter de ce sujet, je reçois M. Guillaume Rousseau, un habituel de l'émission. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Tout d'abord, avant de revenir sur le colloque, j'aimerais avoir ton opinion sur PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne se présente pas dans Marie-Victorin pour remplacer Catherine Fournier. C'est sorti hier matin, ça fait un peu les manchettes depuis sa sortie. Qu'est-ce que tu en penses sur un aspect politique au niveau nationaliste, Parti québécois et expression de l'identité québécoise à l'Assemblée nationale?
Bon, ben, j'imagine que c'est... la perspective d'une défaite possible qui a refroidi M. Saint-Pierre Plamondon. Bon, par ailleurs, je pense qu'il est le jeune père de famille dans le coin de Québec, donc c'était peut-être pas l'idéal là, du point de vue de conciliation travail-famille d'avoir un comté en rive-sud de Montréal. Donc, tout ça mis ensemble, je pense qu'on peut comprendre sa décision et la respecter. Par contre, c'est peut-être la gestion des communications autour de cette décision qui était pas idéale, parce qu'à mon sens... S'il ne souhaitait pas y aller dans Marie-Victorin, il aurait peut-être dû l'annoncer rapidement au lendemain de l'élection municipale, puis son annonce se serait un petit peu perdue dans le brouhaha, justement, du lendemain des élections municipales où on avait beaucoup d'autres choses à discuter, alors que là, en ayant fait durer le suspense plusieurs jours, ben finalement, il l'annonce, puis là, peut-être que ça aura une résonance médiatique plus grande, mais c'est pas nécessairement à son avantage, parce que, bon, il a l'air de quelqu'un peut-être qui anticipait une défaite du Parti québécois, là. Mais disons que c'est moins pire de ne pas se présenter là, d'avoir une perte avec un candidat peut-être pas vedette, en tout cas qui n'est pas le chef, que d'avoir une perte de la part du chef au printemps, à quelques mois des élections générales.
Qui aurait été mortifère pour le parti.
Exactement. Donc, je pense que c'était perdant comme situation pour lui, mais il a pris la moins pire des avenues dans les circonstances.
Donc, revenons sur le colloque de l'IRQ, présenté en mode hybride, en virtuel ou en présentiel, à l'auditorium de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec, boulevard Maisonneuve-Est à Montréal. Donc, les inscriptions sont possibles sur le site de l'IRQ. Et c'est combien, si je me souviens, une trentaine de dollars?
Oui, environ, et c'est vraiment ce samedi, donc à partir de 10h. Donc, c'est... On est au bon moment pour en parler, donc il y aura des inscriptions jusqu'à la dernière minute, voire
Venez en grand nombre.
Les gens se présentent. Exactement, puis je pense que les gens se présentent samedi matin, puis qui ne se sont pas inscrits, avec un peu de chance, il restera des places. Là.
Non, mais c'est pour me remettre en contexte les auditeurs, c'est très intéressant parce qu'on est sur les 10 ans de la CAQ et donc on a une réflexion, surtout avec le passage de la loi 21, le prochain passage de la réforme de la loi 101 et la reprise des débats linguistiques et nationalistes sur une croisée des chemin au niveau de où va le nationalisme québécois et l'expression de l'identité de manière politique, l'expression de l'identité québécoise de manière politique. Donc, au niveau des différents intervenants, vous avez Éric Bédard, Frédéric Lapois, Virginie Hébert, beaucoup de personnes qui sont assez connues dans le milieu, mais surtout des réflexions à propos de est-ce que les différentes lois et mesures qui ont été faites en matière d'identité et d'expression de la langue sont plutôt des concessions à un électorat ou sont vraiment des mouvements qui indiquent une reprise de ce débat de manière générale au niveau politique. Présente-nous plus en détail ce colloque, Guillaume.
Oui, tout à fait. Donc, notre premier conférencier sera Éric Bédard, donc un historien bien connu, entre autres à ma TV, bon, professeur à la TELUC. Et lui, c'est vraiment la CAQ, quel bilan qu'attendre pour la suite. Donc, vraiment la vision d'un historien spécialiste de l'histoire nationale du Québec. Donc, j'ai l'impression que ça va très bien mettre la table. Je pense qu'il va embrasser large pour vraiment situer la CAQ dans un contexte beaucoup plus large que simplement l'actualité, mais peut-être avec des comparaisons historiques avec la DQ ou l'Union nationale. Donc, vraiment nous situer la CAQ et son bilan dans l'histoire possiblement plus large du Québec. Donc ça, je pense que ça va être bien pour mettre la table. Et ensuite, le premier panel qui suit, c'est vraiment sur la loi 101 et plus particulièrement sur le projet de loi 96. Donc, le timing est bon parce que le projet de loi est présentement sous étude et on attend les amendements du gouvernement presque d'une journée à l'autre. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement dépose ses amendements pour un projet de loi plus costaud. Est-ce qu'il va le rendre applicable à la loi 101 au cégep?
Ça
reste à voir. Mais disons que c'est dans les prochains jours que ça se joue. Alors, d'avoir trois spécialistes de la question qui sur un panel là-dessus ce samedi 20 novembre, c'est vraiment un gros plus.
Ça, c'est quelque chose qui me fait penser. C'est une question que je voulais te poser. Que penses-tu en ce moment de cette querelle au sein du caucus de la CAQ entre l'aile nationaliste représentée par Simon Jolin-Barrette et l'aile Afariste qui est, on va dire, fédéraliste tant que le profit y est. À propos de la loi 101 et de l'application au cégep, on voit que par exemple la ministre McCann pour l'enseignement supérieur, François Legault même, sont toujours un peu les digues encore au sein du caucus pour empêcher cette application de la loi 101 au cégep. Mais même des personnes à tendance plus fédéraliste commencent à comprendre l'importance d'appliquer cette loi 101 au cégep, surtout avec l'étude qui est sortie en fin de semaine dernière et début de cette semaine sur le fait que les allophones maintenant sont la plus grande clientèle des cégeps anglophones. Et façon de parler, c'est ils vont à l'école primaire et à l'école secondaire francophone car ils sont obligés par la loi, mais s'ils pouvaient le faire, ils n'iraient même pas.
Ouais, effectivement. Donc, je pense que sur le fond, autant il peut y avoir des gens dans le caucus qui croient vraiment à la question du libre choix, de l'enseignement, de la langue d'enseignement collégial, mais je pense que de plus en plus, le débat dans l'opinion publique, dans les médias, évolue de telle manière que de plus en plus, je pense, les gens dans le caucus, les députés de la CAQ comprennent
l'importance politique.
Exactement. Donc, on comprend effectivement politiquement que la sensibilité puis le gain potentiel. En même temps, sur le fond, en termes de politique publique, là, le fait que même ceux qui vont au primaire, secondaire en français, lorsqu'ils vont ensuite au cégep en anglais, ben, ils vont avoir tendance par la suite à travailler en anglais, à consommer des produits culturels presque exclusivement en anglais. Donc, de plus en plus, on comprend ça. Puis on comprend qu'on a beau faire tous les efforts sur les autres plans, langue du travail, langue des affaires, s'il y a ce chaînon nom manquant, qui est le cégep de langue française pour tous, là, sauf les anglophones, ben, il va probablement avoir un échec possible, ou en tout cas une réussite beaucoup moindre du projet de loi. Alors, je pense que ça chemine. Maintenant, la crainte, il faut comprendre que c'est à la fois la limite, mais aussi la force de la CAQ, c'est qu'ils sont très, disons, prudents, puis ils sont très soucieux de rester en contact avec l'opinion
c'est
publique.
Ça.
Donc, je pense que ce qu'ils craignent, et là, il y a quand même des sondages qui viennent peut-être limiter ça, puis nous dire que la crainte a peut-être pas lieu d'être, mais la crainte, je pense, c'est de dire, si jamais la CAQ va de l'avant avec ça, et que ça crée une forte contestation, ben là, on sait pas, là, ça pourrait, donc, pour avoir un mouvement d'opinion, ou d'une partie d'opinion contre ça, est-ce que ça pourrait revigorer le Parti libéral du Québec, voire Québec solidaire, qui, à ma connaissance, est aussi opposé à cela, donc, je pense qu'il y a cette crainte-là de réveiller le mort, qui est le Parti libéral du Québec, là, donc, il y a un peu de ça.
Mais ce qui est drôle de l'autre manière, c'est qu'on a un sondage qui est sorti où on a 69% des francophones au Québec qui sont pour l'application de la loi 101 au cégep et que le sondage montrait, quand on comptait les allophones et les anglophones, ça descendait à 58 ou 59%. Donc, malgré une opposition des communautés culturelles différentes, donc anglophones, allophones et autres, on a quand même une forte majorité pour l'application de la loi 101 au cégep. Donc, si la CAQ étant un peu suiveuse d'opinion sur beaucoup de ses politiques, pour l'opposition est de moins en moins compréhensible.
Ouais, puis la même chose dans les journaux, les chroniqueurs, même des gens très réputés modérément nationalistes comme Emmanuel Latraverse a pu prendre position. Donc effectivement, on sent que l'appui s'élargit. Maintenant, le sondage, moi je le trouve super intéressant, mais la question du sondage, en tout cas le dernier léger, si j'ai bien vu, c'est la question, c'est doit-on appliquer la loi 101 au cégep? Et je ne sais pas à quel point tous les répondants comprennent exactement ce que ça veut dire. Donc, je pense que si on posait la question en utilisant d'autres mots, est-ce que vous voulez restreindre l'accès au cégep anglais, aux seuls anglophones, ou interdire l'accès aux francophones, aux allophones, on aurait peut-être des chiffres un petit peu différents à la baisse en termes d'appui à cette réforme, mais il n'en demeure pas moins qu'au-delà de la question exacte et du chiffre exact, la tendance est à l'accroissement de l'appui à cette idée-là, puis c'est peut-être ça qui est à retenir.
Les réflexions sur le nationalisme woke, c'est pas unique. Sur le nationalisme québécois, c'est pas uniquement la langue et la loi 101, c'est aussi l'égalité homme-femme, la question de la laïcité et la question woke en ce moment qui prend énormément de place dans les médias. Donc, tout d'abord, sur l'égalité femmes-hommes et la laïcité québécoise, on a beaucoup de choses en ce moment, surtout au niveau, par exemple, de la projet de loi à propos des personnes trans, où on a une sorte de réforme, une refonte totalement de qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le genre. Beaucoup d'activistes ont fait changer la position de M. Jean Labarrette, peut-être de force, de peur de se nier de l'opinion et donc de potentielles voix pour les prochaines élections. C'est assez dommage. Et aussi, la question woke avec face au nationalisme québécois. Donc, reviens sur un peu qu'est-ce que seront le contenu de ces deux tables rondes.
Oui, effectivement. Donc, les deux tables rondes de l'après-midi sont sur ces thèmes-là. Dans le premier cas, c'est égalité femmes-hommes, laïcité, multiculturalisme. Donc, c'est essentiellement Christiane Pelchat et Nadia El-Mabrouk. Maître Pelchat, c'est l'avocate pour les droits des femmes qui intervient dans le procès de la loi 21 pour défendre la loi. Donc, j'ai l'impression qu'elle va faire le point un petit peu sur, sur le procès d'un point de vue féministe universaliste, mais peut-être aussi qu'elle nous parlera plus largement de cette dynamique féministe multiculturaliste qui, évidemment, où il y a des tensions historiquement puis dans l'actualité. Puis du côté de Mme El Mabrouk, ben je pense qu'elle va être sur quoi qu'elle s'intéresse à la question transgenre dont vous venez de parler, mais je pense que l'essentiel de sa conférence sera sur la réforme du cours éthique et culture religieuse, qui sera remplacé par un cours de
qui
culture
qui est un point extrêmement important de cette période de l'année.
Exactement. Donc, on arrive en plein, encore là, on est en plein dans l'actualité. L'annonce vient d'avoir lieu, mais les consultations se poursuivent. Mme El Mabrouk a beaucoup écrit là-dessus. Donc, c'est vraiment une de celles qui réclame depuis longtemps la réforme de ce cours-là. Fait qu'elle va vraiment nous présenter encore là, d'un point de vue féministe, d'un point de vue favorable à la laïcité, pourquoi c'est important cette réforme, cette abolition du cours ECR. Alors ça aussi, ça va être intéressant et vraiment d'actualité.
Et donc, ce qui est assez marrant aussi, c'est donc continuer sur le nationalisme québécois et comment il réagit face à la culture de l'annulation et toutes les questions de « wokisme », entre guillemets. Donc ça, c'est la dernière table ronde à 14h15, avant ton mot de clôture à 15h30, toi, Guillaume Rousseau, en tant que directeur de la recherche de l'IRQ. La dernière question que j'ai à te poser pour la dernière minute, c'est: à quoi sert l'IRQ encore en 2021, surtout face à une sorte de revival, de retour du nationalisme québécois? Est-ce que la mission de l'IRQ est toujours d'actualité maintenant?
Oui, tout à fait. Donc, l'IRQ, c'est un institut de recherche, comme son nom l'indique, est associé au Mouvement national des Québécois. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace intellectuel pour discuter des questions importantes pour l'avenir du Québec, surtout autour du nationalisme. Et des fois, des questions qui pourraient être discutées dans le milieu universitaire, mais peut-être que ce serait un contexte de moins grande liberté, disons, dans le contexte universitaire, alors que là, on a peut-être une plus grande liberté. Je pense, entre autres, à la dernière table ronde sur le nationalisme québécois, la question woke, où justement on va parler de la culture de l'annulation avec François Charbonneau, professeur à l'Université d'Ottawa, qui est au front là-dedans.
En ce moment, oui.
David Santa Rosa, qui est un professeur au secondaire, Étienne-Alexandre Beauregard, un jeune intellectuel. Donc, on va peut-être là où, en milieu universitaire, c'est peut-être moins évident. Donc, déjà, en soi, c'est intéressant pour l'Institut de recherche là, de créer cet espace de liberté de parole. Et d'autre part, si on regarde les politiques actuelles du gouvernement de la CAQ, il y en a beaucoup qui sont influencés par des études qui ont été publiées par l'Institut de recherche sur le Québec. Le projet de loi 96, ça reprend là carrément là, plusieurs éléments de nos études. Donc, on pourra en discuter sur le premier panel, moi-même, Virginie Hébert et Frédéric Lacroix. Donc, je pense que le colloque va bien illustrer la pertinence de l'Institut. Puis, on va peut-être, en parlant avec les gens dans la salle ou en ligne, on verra aussi d'autres sujets qui les intéressent pour les prochains événements, puis pour peut-être des prochaines recherches qu'on pourrait être appelé à financer.
Donc, si vous souhaitez assister à ce colloque qui a lieu samedi, pour le rappel, tout au long de la journée, vous pouvez aller sur lepointdevente.com pour vous inscrire en présentiel ou en virtuel, ou directement sur le site de l'IRQ, irq.québec, qui vous permettra de vous procurer vos passes afin d'assister à ce colloque. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir.
Ben, merci à vous. C'est vraiment la 14e édition, parce que des fois, quand on va sur le site web, on tombe sur la 12e. Oui. Donc, c'est vraiment peut-être marqué 14e édition 2021. Vous avez tombé sur le bon programme et pour l'inscription.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci à tous d'avoir été à notre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Merci aussi à Daniel Fortin derrière les micros pour assurer une magnifique réalisation comme d'habitude. Bonne fin de semaine.